comprendre du Mayo Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
dit. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et bienvenue sur Radio Capi qui vous accorde la parole. Le président tanzanien a proposé au gouvernement congolais de reprendre les négociations avec le M23, au Rwanda d'initier un dialogue avec les FDLR et l'Ouganda avec l'ADF Nalu. Jakaya Kikwete l'a exprimé à l'issue de la rencontre des chefs de l'État de la région des Grands Lacs le 26 mai 2013 en marge du cinquantenaire de l'Union africaine. Pour le président tanzanien, il n'y a pas de paix durable sans négociation globale. Nous en parlons dans cette émission et nous vous laissons, nous vous accordons la parole donc pour commenter cette actualité. Composez le 081 890 63 15 ou bien le 081 890 43 39 pour votre intervention en direct. Rejoignez-nous également à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Titi Mputu et Pierrot et Lamegi sont à la réalisation de cette émission et Jean-Noël Mokonde est à la mise en onde sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons en ligne Dominique Wirth, politologue, pour nous permettre de nous orienter par rapport à toutes nos préoccupations. Dominique, vous êtes avec nous. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Ben, je vais très bien. Voilà, Dominique, quel regard peut-on avoir de ces propos du président tanzanien? Il estime que sans négociation globale, il n'y a pas de paix durable.
Écoutez, moi je pense que, notamment la presse a relayé de manière un petit peu diplomatique les propos du président tanzanien, M. Kikwete, parce que moi, si j'entends un peu ce qu'on dit, notamment à Addis Abeba, les personnes qui étaient présentes lors de cette réunion en marge du sommet de l'Union africaine et surtout la commémoration des 50 ans de la création de l'Union africaine, je pense que ça a été d'abord, avant tout, un petit coup de gueule, si vous me permettez l'expression.
Voilà, Dominique, on a... Oui, s'il vous plaît, Dominique.
Sont évidemment
autour
de la table avec lui, à savoir M. Mousseveni, M. Kagame, peut-être même aussi un peu M. Kabila, en disant, écoutez, maintenant...
Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dominique, on ne saura pas poursuivre avec vous. On ne saura pas poursuivre avec vous parce que là, nous avons vraiment une mauvaise qualité de communication. Nous allons vous relancer pour nous permettre de bien comprendre, hein, de bien suivre ce que vous êtes en train de dire. Le temps pour nous, peut-être la réalisation va nous aider. 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission, Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, on va ouvrir le débat avec les auditeurs en attendant que notre invité puisse se mettre à nouveau en ligne. Franklin, vous êtes à Bukavu et Sylvain à Kinshasa. Franklin, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, bonjour à notre invité, merci encore pour l'opportunité que vous m'accordez pour m'exprimer sur ce sujet. Bon, dans l'entrée du sujet, moi je dirais que je n'appuie pas totalement l'idée du président Jakaya. Pour la bonne et simple raison que cette idée serait valide à 100% si c'est la région qui est sécurisée. Parce que la défense de chaque pays, vous le savez, c'est l'œuvre du pays. C'est une mission régalienne de chaque pays. Mais on veut faire croire aux Congolais que non, pour que la RDC retrouve la paix, il faut d'abord que chaque pays soit en paix. Alors que chaque pays de la région, aujourd'hui, nous le savons, vive en paix. Ça, c'est une bonne manière d'appuyer les autorités congolaises dans la fuite de leurs responsabilités. La paix au Congo, c'est d'abord l'œuvre du Congo. Peut-être là où j'appuierai M. Kikwete, c'est quand il envoie un signal fort aux Congolais pour dire que non, mes troupes qui sont là, mes troupes qui viendront là dans le cadre de la force internationale, maîtres ne viendront pas pour se battre, ne viendront pas pour se faire tuer au Congo. C'est à vous les Congolais de maintenir la paix, de sécuriser votre population. C'est là où moi je suis d'accord. Mais dire que non, la paix au Congo doit passer par les négociations au Rwanda ou au Burundi, moi je ne suis pas d'accord. Monsieur le journaliste, est-ce que vous imaginez quel intérêt auront les FDLR qui pilotent ici à l'RDC, quel intérêt auront à aller au Rwanda pour se faire, pour vivoter là, alors qu'en RDC, ils vivent. Mais moi, je pense qu'ils ne peuvent pas accepter. Eux-mêmes ne sont pas d'accord pour les négociations, parce qu'ils ne les réclament pas. Et s'ils les réclament, c'est juste pour les colmatages. Mais eux-mêmes n'ont pas intérêt à aller au Rwanda. Parce que vous allez vous rappeler, ici, en RDC, pratiquement à l'Est, les grands commerçants, ce sont les autres de l'air dans les villages. Si vous circulez un peu dans tous les marchés du village, ils ont leurs taxes qu'ils ont instituées. Vous circulez les carrés miniers, ils ont leur pourcentage qu'ils prélèvent. Mais est-ce que vous leur dites, mais allez au Rwanda ou vous n'aurez rien, ils vont accepter ça? Moi, je pense que la sécurité, la présence des FDLR et des ZDF Nalu ne dérange pas l'Ouganda, ne dérange pas le Rwanda. Alors, le Rwanda a tout intérêt pour que ces gens-là soient maintenus ici au Congo.
Oui,
parce que leur présence au Rwanda, c'est comme les envoyer à la mort. Ils sont trouvés mieux au Congo. Alors, ils ne peuvent pas accepter de rentrer au Congo, au Rwanda. Moi, je vais vite proposer trois choses pour essayer de mettre fin à la sécurité. Il faut d'abord mettre un État au Congo. L'État congolais n'existe pas. Il faut refonder l'État congolais pour que l'État congolais existe. Deuxièmement, réformer l'armée. On le dira, on le cessera de le dire. Ces gens doivent être forcés à retourner chez eux. Parce que de leur bon vouloir, ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont trouvés mieux au Congo. Il ne peut pas accepter et faire pression pour qu'il y ait une négociation ou dialogue au Rwanda. Troisième proposition, la cohésion interne. Le problème du Congo, c'est aussi ces divisions internes qui sont entraînées et alimentées par les acteurs politiques congolais, soutenus par l'extérieur. Il faut une cohésion interne. Et je termine par dire ceci. Chacun a dit les choses qui sont salutaires pour la région. Ces groupes armés ne menacent pas la sécurité de la région. Ces groupes armés menacent uniquement la sécurité de la RDC. Et donc c'est à la RDC de se battre pour essayer de trouver la solution. Et pas pour dire qu'il faut qu'il y ait négociation au Rwanda. Ça, c'est une façon de fuir, de donner aux Congolais la raison de fuir leurs responsabilités à se cacher derrière les propos de Chacun Kikwete. Pourquoi ne pas parler des FNL si c'est réellement la sécurité de la région est dérangée? Mais il a oublié les FNL au Burundi. Parce qu'il est aussi au perdu les seuls Congolais. Non, monsieur le journaliste, la seule Congolais est d'abord la responsabilité du gouvernement. Pas de négociation au Rwanda ou en Ouganda. Et ça, c'est comme expression que non, le gouvernement n'a rien à proposer à la communauté internationale. On lui a dit négocier avec le Rwanda, le gouvernement a négocié avec le M23, le gouvernement a accepté.
Voilà.
Et la force internationale ne doit venir, le gouvernement a accepté. Encore ça, le gouvernement. Mais qu'est-ce que le Congo propose? Qu'est-ce que le Congo elle-même amène au Conseil des Nations? C'est comme si on propose tout. Moi, je pense que la paix au Congo, c'est d'abord l'œuvre des Congolais. Le gouvernement congolais doit se battre parce que les FDLR, les ZDF Nalu ne rentreront pas au Rwanda dans leur pays où ils vont vivre d'une manière
voilà. Merci beaucoup, Fonclin.
Alors qu'ils sont toujours mieux au Congo.
Oui,
moi,
merci.
Je pense que ça.
Voilà.
Moi, je voudrais dire ceci.
Oui, Fonclin,
alors...
Oui, Fonclin, vous avez épuisé vos minutes. Hein, je crois que parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent aussi d'intervenir. Donc, nous sommes obligés de vous interrompre un peu là, mais nous retenons que pour vous, hein, toutes ces menaces enregistrées dans l'est de la République démocratique du Congo qui font qu'aujourd'hui il y a l'insécurité en RDC, et il ne s'agit pas de l'insécurité dans la sous-région donc, ou encore dans la région, selon vos propos. C'est vrai, d'une part, vous appuyez l'idée de Jakaya, et d'autre part, vous rejetez en bloc ces propos. Merci beaucoup, Franklin Bukavu, d'avoir appelé de Bukavu. Nous revenons à notre invité, Dominique Valls, professeur Dominique. Vous êtes nouveau en ligne. Oui. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de regard qu'on peut avoir de ces propos du président tanzanien, avant qu'on revienne un peu sur les interventions des auditeurs.
Oui, donc moi, ce que je disais, je pense que le président Kikwete a montré une marque d'impatience devant la situation qui perdure à l'est de la République démocratique du Congo, où on dit tout le temps que ce sont des groupes rebelles qui font qu'ils sont en train de nuire à la pacification et à la sécurisation de la région. Moi, je pense qu'il a un peu raison. Et donc, quand on a retenu uniquement ces propos disant il faut, évidemment, au-delà de la solution militaire avec la mise en place de ces fameuses brigades d'intervention rapide, il faut évidemment que les pays concernés, à savoir l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo, eh bien, entament un véritable dialogue avec les forces négatives. Je pense que là-dessus, il a un peu raison et il enfonce même un peu une porte ouverte. Parce qu'il est évident que ce n'est pas uniquement la mise en place de cette brigade d'intervention rapide financée par l'ONU et composée de forces essentiellement africaines, dont bien entendu des Tanzaniens, et c'est pour ça aussi, je pense que le président Kikwete s'est permis de pouvoir rappeler un peu à l'ordre ses collègues. Ce n'est évidemment pas uniquement cette force-là qui va résoudre le problème. La vraie question, c'est de savoir, en effet, comme le disait un peu votre auditeur, c'est de savoir est-ce que le Rwanda a intérêt à engager un dialogue qui pourrait aboutir à un accord de paix entre les fameuses FDLR qui sont toujours sur le territoire congolais et le régime de Kigali.
Mmh.
Si la question des FDLR est réglée en République démocratique du Congo, le Rwanda n'aura plus aucune justification à apporter pour soutenir militairement un mouvement comme le M23, sécuriser ses frontières, jusqu'à même faire entrer des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Et on a un peu le même mécanisme, évidemment, avec l'Ouganda et avec les ADF Nalu, les rebelles ougandais. Si les rebelles ougandais arrivaient à trouver une solution pacifique avec l'Ouganda, eh bien, le président Museveni n'aurait pas besoin de sécuriser ses frontières et de dire qu'il y a des menaces qui déstabiliseraient,
voilà.
Donc une possibilité de déstabilisation de son pays, alors que cette force...
Voilà, Dominique, on est obligé, on va essayer un peu de... Dominique, s'il vous plaît, est-ce que vous me suivez?
A pris un angle qui...
Voilà, je crois que les collègues qui sont à la réalisation diront à Dominique de pouvoir un peu soit changer sa position ou encore on l'enverra peut-être sur une autre ligne pour voir si la qualité pourrait s'améliorer pour nous permettre vraiment de poursuivre cette émission. Sinon, là, on a des difficultés, on a ces petits soucis qui commencent un peu à mettre un peu, disons, à ne pas être agréable. Sylvain est à Kinshasa et Massamba est à Bunia. Nous allons prendre des auditeurs qui ont tous souhaité depuis très longtemps de participer à ces débats. Sylvain, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bon début de semaine à tout le monde.
Merci Sylvain et à vous aussi. Sylvain, vous avez suivi vos prédécesseurs. Nous avons dit que le président tanzanien a proposé au gouvernement congolais de reprendre les négociations avec le M23, au Rwanda d'initier un dialogue avec le FDLR et l'Ouganda avec l'ADF Nalu. Alors comment commentez-vous cette actualité?
Oui, merci. À mon avis, je pense que d'abord les propos de M. Jacques Kikwete, ces propos-là sont une proposition. Et comme toute autre proposition, ça relance bien des analyses et les débats comme nous les faisons. À mon avis, les problèmes congolais sont avant tout congolais. La paix dans la région, certes, est tributaire des pays voisins, l'État doit être fort en République démocratique du Congo. Jusque-là, Kagame n'a aucun intérêt à dialoguer avec le FDLR, comme Museveni n'a aucun intérêt aussi à dialoguer avec les récalcitrants qui se retrouvent tous sur le sol congolais. Alors, si l'État était fort, si la diplomatie de ce pays était dynamique, elle allait accentuer la pression pour que ce pays soit vraiment à la hauteur et puissent vraiment répondre à cette urgence-là et chercher à dialoguer avec les groupes qui sont tombés en conflit avec eux. Parce que personne jusque-là n'a appelé ces groupes armés-là, que ce soit Ougandais, Rwandais et autres, à demeurer sur le sol congolais. Ce sont des groupes qui sont tombés d'une façon disparate avec leurs pays respectifs en conflit. Alors, en ce que a dit M. Jakaïti Kouete, il a rappelé qu'à l'État congolais, s'il faut engager encore un dialogue, avec qui? Parce qu'il dit avec M23, alors qu'on sait qu'il y a une trentaine de mouvements armés qui sont non contrôlés et parfois non répertoriés par l'État congolais, qui échappent même bien sûr. Alors vous comprenez, s'il faut engager le dialogue, il faut aller un par un, donc ce serait un passe-temps et cela va pousser à aller plus loin.
Oui, Sylvain, si je comprends bien, vous plaidez comme certains observateurs à l'organisation imminente du dialogue pour la cohésion nationale.
Tout à fait. Il faut un dialogue pour la cohésion nationale. Et d'ailleurs, vous savez, au niveau du pays, le président M. Kabila avait parlé du dialogue national. Mais jusque-là, où en est-on? Donc, le gouvernement essaye de jouer la figure du démon dans ce dossier. Et la paix en ce pays est tributaire d'abord d'un État fort en ce pays et des pays voisins. Parce que jusque-là, le Rwanda qui vient trouver la paix dans la région est allé plus loin par sa chef de diplomatie jusqu'à qualifier de ses propos aberrants. Alors que c'est les propos même de cette ministre-là qui sont qualifiés d'aberrants parce que c'est une proposition, il fallait l'analyser, il fallait tirer le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la multiplicité des groupes armés, qui sont non seulement congolais, mais qui sont aussi rwandais, ougandais, qui se retrouvent aussi les seuls congolais. Alors, la paix en ces pays, il faut que l'État renforce sa diplomatie. Au Congo, il y a l'absence de diplomatie. Jusque-là, on est allé à Kampala. Est-ce qu'on est passé à la radio pour dire aux Congolais, voilà, Kampala a produit ceci, alors qu'on a passé trop de mois à Kampala? On a perdu beaucoup de temps, les gens ont beaucoup commenté. Donc, si le gouvernement était fort, si l'État était fort, si la diplomatie jouait la bonne danse, elle allait faire pression aux États voisins, avec bien sûr une armée constituée, avec une armée rétablie, on allait faire pression aux États voisins pour comprendre la paix dans la région. M. Jakaïti Kouete a fait une bonne proposition, mais ça relance bien les analyses comme nous le faisons. Il faut que l'État congolais, qui est le premier acteur de la recherche de la paix, soit d'abord fort et engage une dynamique, une diplomatie dynamique pour essayer de faire voir à ses voisins que notre paix est dérangée.
Est-ce que vous êtes pessimiste comme Franklin qui disait tout à l'heure que il faut pas s'attendre à ce que les FDLR puissent quitter la RDC parce que pour eux la RDC c'est là où coule le lait et les miels. Aller au Rwanda c'est pratiquement aller à l'enfer.
Vous le dites bien, vous savez, les FDLR ne trouvent aucun intérêt à retourner au Rwanda. Ni le groupe ougandais ne trouve aucun intérêt. Donc, la question principale, ce sont les intérêts de ces groupes armés-là. Parce que vous n'allez pas les demander de retourner dans leur pays respectif et passer nuit à pommer. Bien quand ils sont sur le sol congolais, ils sont au paradis. Mais la faiblesse, c'est de notre État. C'est de la diplomatie congolaise. C'est jusque-là, c'est l'armée qui est encore déchirée, qui n'est pas encore rétablie. Si on engage toutes les voies, si on met en place toutes les batteries, la paix, comme peut l'affirmer certains observateurs, et comme je l'ai dit moi aussi, la paix sera acquise en RDC et dans la région, parce que les pays de la région ont aussi un rôle influent à jouer dans l'acquisition de la paix en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé de Kinshasa. Nous partons tout de suite à Bounia pour retrouver Kassamba. Et après, nous irons à Mbujimayi pour retrouver Théodore. Massamba, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Kapi. Bonjour Massamba. C'est Kassamba, oui, voilà. Kassamba, bonjour. Voilà, le temps que Kassamba puisse se remettre encore en ligne. Nous prenons Théodore qui est en Mbujimayi. Théodore, bonjour.
Bonjour, Jean.
Voilà, Théodore, vous avez la parole.
Merci pour la parole. La position du président tanzanien fait preuve de maturité politique. Lui, qui a accepté d'envoyer ses troupes pour intervenir chez nous au Congo. Vous savez, pendant plus de 15 ans que nous continuons à souffrir, la chose est vraiment simple. Il est temps peut-être que la République démocratique du Congo pouvait être autour d'une table avec tous les groupes armés, avec tous les partis politiques, avec la société civile, avec tout le monde, y compris même le M23. Les Rwandais ne peuvent plus déclarer que négocier tout autour d'une table avec le FDLR, que c'est aberrant. Non, il ne peut pas dire ça. Ou encore l'Ouganda, dire qu'on peut négocier avec ceux qui sont prêts à négocier. Non, non, ils ne peuvent pas dire ça. Tous, nous devons se faire violence pour inclure toutes les parties en conflit dans cet appareil exécutif. C'est ainsi. Les dangers qui nous guettent sera que si les Rwandais ou les Ougandais ne chercheront pas à ouvrir les bras à ces frères, nous serons obligés de dire à l'ONU et à l'OIA de chercher pour eux d'autres pays de refuge. Parce que nous avons constaté que nos femmes continuent à être violées, nos richesses pillées au détriment du Rwanda et de l'Ouganda. Comme le Rwanda a peur que le pouvoir ne soit repris par ses frères hutus majoritaires, alors qu'ils ouvrent la brèche sur la voie démocratique et nous laissent nous aussi envie de nous permettre d'aller dans les droits du respect des droits de l'homme, à la justice fiscale et sociale et à la bonne gouvernance pour que nous soyons aussi cotés comme les cotes se fait chaque fois dans le monde entier.
Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Je crois que cette fois-ci, ça va aller avec notre invité, Dominique Hubert. Vous êtes avec nous à nouveau en ligne. Tout à l'heure, si vous pouvez, peut-être pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en cours de cette émission, rappeler ce que vous étiez en train de dire, hein, à propos de quel regard on peut avoir sur les propos du président tanzanien qui estime que sans négociation globale, il n'y a pas de paix durable.
Je pense qu'il a évidemment raison, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une justification pour les États voisins de la République démocratique du Congo de considérer que les forces négatives qui se trouvent sur le territoire congolais et qui menacent soit l'Ouganda ou soit le Rwanda, eh bien, sont la raison pour laquelle ces deux États soit soutiennent des mouvements rebelles sur le territoire congolais, soit interviennent même carrément, puisque l'on sait qu'il y a et des troupes rwandaises et des troupes ougandaises qui sont actuellement sur le territoire congolais sans...
Voilà, dommage qu'on ne peut pas, on ne peut pas poursuivre cet entretien avec vous, Dominique, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un problème des réseaux à plus de 8000 kilomètres. C'est vrai, bon, on dirait qu'on a des petits soucis pour aller plus loin avec notre communication. Nous allons... Ce n'est qu'une partie remise. On va essayer encore au cours de cette émission si ça va s'arranger, ça va s'améliorer pour que nous revenons à vous, Dominique Hubert. Le temps pour nous de prendre Laïs qui est à Bukavu. Laïs, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Baptiste Laïs de Bukavu. Je suis très content de participer aujourd'hui à cette émission. Je suis parole des auditeurs.
Vous avez la parole, Laïs.
Oui, je voulais parler concernant la parole qui a été employée par le président tanzanien. Moi, je peux dire que c'est une parole qui est diplomatique parce que le problème ne se trouve pas au Rwanda. Lorsqu'on dit le Rwanda de négocier avec, de dialoguer avec l'Est de l'air, ce n'est pas, les Est de l'air ne sont pas au Rwanda. Les Est de l'air sont à l'air des yeux. C'est pourquoi je peux tout simplement dire que ce n'est pas le problème du Rwanda parce que ce n'est pas la guerre qui est régionale. C'est la guerre qui est à l'air des yeux. C'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Là, le qui avait parlé des points qu'on met plus la MONUSCO que la Nation Unie va amener en RDC pour intervenir à la place de l'armée congolaise, là, je vois que c'est en train de pas considérer l'armée congolaise. Moi, je ne sais pas comment, là où il y a 100 000 hommes, on peut intervenir. C'est pourquoi moi je peux tout simplement dire que ça c'est le problème congolais. C'est l'État congolais qui est là pour régler les problèmes congolais. Les problèmes problème qui existe, c'est le manque de leadership responsable, c'est le manque de l'armée républicaine, aussi c'est le manque aussi de la diplomatie qui est responsable. Parce qu'au niveau international, la RDC est vide. Tandis qu'au Rwanda, si je vais parler au Rwanda, est soutenu par l'Angleterre et les États-Unis, tandis qu'à l'RDC, nous n'avons pas aucun pari. C'est pourquoi je vais proposer aux dirigeants congolais de former une armée républicaine, de créer une diplomatie responsable, de ne pas chercher une diplomatie qui est là pour que lorsqu'on envoie un ambassadeur là, c'est par des intérêts d'affinité ethnique et d'affinité amicale pour qu'on envoie un ambassadeur. Qu'on puisse envoyer un ambassadeur qui est quand même capable de parler au nom de la RDC. Et aussi de chercher les parrains au niveau national, au niveau international, soit des firmes. Qui peut tout simplement aussi parler, parce que tout ce qui se passe là, en RDC, surtout à l'Est, c'est le problème de la richesse congolaise. Et c'est pourquoi le Rwanda est en train de nous agacer, afin que le multinational, américain ou anglaise puisse tout simplement profiter. Et je peux dire que le Rwanda est tout simplement un arbre qui cache de la forêt, parce que les gens qui sont derrière cette guerre sont multiples, et surtout ce sont des pays impérialistes là. Et c'est pourquoi je peux dire au gouvernement congolais de réformer l'État congolais, d'avoir un État responsable par rapport à ce qui se passe en RDC, par rapport au Rwanda, parce que auparavant, lorsque nous pouvons interroger l'histoire, lorsque Mobutu était dans les années 80, les Rwandais ne parlaient aucune chose par rapport à la RDC. Mais aujourd'hui, parce que nous avons des responsables au niveau de nos maires sont en train d'être violés par les intérêts. Moi, le gouvernement ne font rien pour regarder comment on peut lutter contre ça. La gestion du pays, on ne pense pas pour la jeunesse, enfin qu'on puisse tout simplement avoir un avenir. Mais hier, c'est toujours compliqué.
Voilà, merci beaucoup Laïs. Donc là, vous rejoignez Franklin qui est intervenu dans la même ville que vous. Franklin qui parlait de la refondation de l'État congolais et la réforme de l'armée. Et il a même ajouté une troisième option, donc la cohésion nationale. Là, je crois que l'initiative a été prise par le chef de l'État qui l'appelait d'ailleurs de tous les voeux pour qu'il soit organisé à l'interne le dialogue national pour la cohésion nationale. Merci beaucoup d'avoir appelé. Élie, vous êtes à Likasi. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les Congolais qui sont en train de suivre la radio.
Vous avez également la parole, Élie.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Mais je voudrais d'abord, avant de mettre mon point de vue, remettre les propos président qui peut être dans le contexte le plus parfait. Et je rappelle à tous que le président tanzanien donne fait cette déclaration en tant que le président d'un pays ayant accepté d'envoyer ses militaires combattre les groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC. Mais il venait aussi de faire ses déclarations à la d'un sommet international au niveau africain. Mais c'était aussi à la suite du visite du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans notre pays. Mais ce que je regrette, c'est que nous, Congolais, nous n'ayons pas compris la vraie question et le vrai problème de l'insécurité dans notre pays. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, j'ai d'abord honte à sa place qu'il chapeaute l'Organisation des Nations Unies et je dois rappeler à tout le monde que cette organisation mondiale est régie par la Charte des Nations Unies qui réglemente les relations entre les États. Et cette charte pose les principes qui doivent régir ces rapports, entre autres le principe d'égalité des États, le principe de non-ingérence, le principe de non-immixtion et le principe de responsabilité pénale. Et lorsqu'il y a eu des guerres, lorsque Goma a été pris par les M23, le secrétaire Ban Ki-moon lui-même a mandaté les observateurs des Nations Unies pour qu'ils viennent enquêter sur l'insécurité à l'est de la RDC, comme s'il n'en savait rien, alors qu'il avait un représentant spécial ici au Congo. Alors, après les enquêtes de ces experts, il est ressorti clairement que le M23 n'est pas un mouvement rebelle congolais qui revendique quoi que ce soit, mais c'est plutôt
l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Moi, je pense que si le secrétaire général des Nations Unies était clair, il était conscient devant...
S'il vous plaît, Eli, est-ce que vous pouvez nous faire une idée, parce que c'est vrai en droit international, comment on peut identifier une agression à une rébellion, par exemple, voilà, pour aider quand même les communs des mortels hein, qui nous suivent et qui n'ont pas une idée par rapport à ça. Quand est-ce qu'on parle d'une agression?
Monsieur Gir, lisez le rapport, je fais des relations internationales. Moi, au lieu que je vous donne des définitions scientifiques et classiques...
Non, c'est pour aider ceux qui nous suivent et ceux qui vont intervenir après. Parce que quand vous parlez de l'agression, entre-temps, les rapports que nous avons, les experts, on ne parle pas de l'agression, on parle plutôt de groupes armés qui, en fait, soutenus par d'autres pays.
Soutenus par le Rwanda.
Soutenus par d'autres pays, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres.
Alors, quels sont maintenant?
Parce que le soutien ça peut être matériel, le soutien ça peut être financier.
Maintenant, comment mettre fin à cette insécurité causée par les groupes armés, dont principalement le M23? On ne reproche pas au Rwanda son comportement, mais on a demandé à la RDC, sur base de la résolution de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de négocier avec le M23 à Kampala. Maintenant, ayant réalisé que cette négociation n'aboutit presque à rien, on convoque encore les pays africains à Addis Abeba pour prendre la résolution.
Et ici, on doit envoyer
une brigade d'intervention pour éradiquer.
Tout à fait. Alors, évoluons, Élie, parce qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent quand même pour intervenir aussi. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en face des propos du président tanzanien, et la Tanzanie est l'un des pays qui va participer à la force d'intervention neutre des Nations Unies, donc elle est un pays qui a donné aussi son accord. Alors, aujourd'hui, vous pensez que le président Jakaya Kikwete vient de toucher la plaie, donc vient de toucher là où les gens ne parlaient pas clairement, qui avait réellement le problème de comme c'est un problème de négociation globale pour une paix durable dans la région.
Non, ça veut en d'autres termes dire que la brigade d'intervention ne mettra pas fin à l'insécurité, donc ne va pas mettre fin à cette guerre imposée par le Rwanda, dont le M23 est le tenant de cette guerre.
Merci beaucoup Eli d'avoir appelé. Nous prenons Benoît qui est à Kindu. Bonjour Benoît. Voilà, Benoît, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Gérard.
Voilà, vous avez la parole, Benoît, rapidement.
Ok. En fait, Gérard, je suis en train de croire là, vraiment, que le propos de Jakaya Kikwete est pour moi comme une potion magique au problème congolais. Pourquoi? Simplement parce qu'il faudra prendre ce problème dans sa dimension totale. Parce que le chef de l'État lui-même, lorsqu'il parle des problèmes, il dit que nous avons toutes les solutions sur table. Et pour le chef de l'État, les solutions c'est quoi? C'est qu'il y a des solutions politiques, des solutions militaires et diplomatiques. Et Jakaya Kikwete, lorsqu'il arrive, il dit que, un, si vous comptez sur le plan militaire, ça veut dire si vous comptez avec les forces que nous vous amenons, il ne faut pas croire que vous allez aboutir. Deux, il faudra maintenant compter sur le plan politique. Il demande aux Congolais de faire le dialogue entre les Congolais. Et trois, c'est au-delà des dimensions politiques, ça veut dire maintenant les dimensions diplomatiques. C'est là où ils imposent les gens à négocier avec tous les groupes rebelles, c'est-à-dire que le Rwanda négocie avec ses rebelles, que l'Ouganda et nous-mêmes. Donc il faut prendre la Tanzanie, peut-être que beaucoup ne savent pas la Tanzanie, c'est quoi. La Tanzanie a une valeur philosophique terrible, parce qu'il faudra rentrer derrière. La Tanzanie a gardé de présidents comme Nyerere. Nyerere lui-même a immédiatement, aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir, il a immédiatement donné ce qu'on appelle en Tanzanie la charte d'Arusha. Ça veut dire, en Swahili, il a appelé lui-même Azimio la Arusha. Lui-même, dans ces chartes-là, il a donné des lignes de conduite comment la Tanzanie pourrait être guidée, pourrait être gérée 10, 20, 30, 40 ans après lui. Donc, quand un président tanzanien ouvre la bouche pour dire quelque chose, il faudra s'attendre que c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Prendre en considération.
Et les Congolais doivent quand même comprendre que ce n'est pas n'importe quel président, parce qu'il s'est remis lui-même en question. Lorsqu'il parle le problème politique, il dit, moi je peux vous donner le militaire, mais ce n'est pas ça la solution. Donc voyez la valeur d'un président. Et puis le sens profond de la philosophie politique de la Tanzanie. Et puis je ne suis pas sûr qu'avec ce que le président tanzanien a pu déclarer, que ce serait une hypocrisie pour nous. Non, parce qu'il faudrait dire, même si on dit actuellement que nous on n'a pas de parrains, mais notre chef de l'État, il a étudié en Tanzanie et d'une manière ou d'une autre, ce sont ses parrains. Et donc, pour sauver peut-être leur fils, entre guillemets, je suis en train de croire, je veux dire, que les propos de Jacques Kikwete, pour moi, c'est ce qu'il faut prendre et l'avenir nous le dira.
Voilà, donc merci beaucoup. Hein. Vous mettez foi donc à la philosophie politique de Tanzanien et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous croyez vraiment à ces propos pour dire que voilà, ça peut être une solution durable pour la situation qui prévoit actuellement en République démocratique du Congo dans sa partie est. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir appelé. Benoît, nous prenons Égide qui est à Kinshasa. Égide, bonjour. Voilà, Égide, vous êtes avec nous, bonne arrivée sur les ondes des Radio Okapi. Le président tanzanien a proposé au gouvernement congolais de reprendre les négociations avec les M23, au Rwanda, un dialogue avec les FDLR et l'Ouganda avec la DEF-NALU. D'aucuns vont encore plus loin, au lieu que les négociations se limitent simplement au M23. Il faudrait qu'on déclenche encore cette option de dialogue national pour la cohésion, disons le dialogue pour la cohésion nationale. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, tu vois, ce n'est pas du tout facile. Mais pour l'Ouganda, je crois que c'est un peu facile. Pour le Rwanda, bon, c'est difficile parce que les Tutsis sont minoritaires. Ils ne voudront jamais céder, pour que le Hutu prenne le pouvoir. Ça, je dis non. Bon, quant à la RDC, c'est vraiment difficile. Difficile dans le sens que il y a du mal pour identifier le Congolais naturalisé, là, les Rwando-Congolais. Alors, le Rwandais, profitant de la langue kinyarwanda, il se mêle à leur faire pour semer la terreur. Vous voyez, mais on se demande, entre le Rwando-Congolais, là, est-il frère au Congolais ou au Rwandais? Alors, s'il est frère au Congolais, pourquoi ils doivent accepter les renforts, les soutiens du Rwanda? Alors, deux. Moi, je pense que parce que, bon, j'étais à Goma, je connais bien le musée, un Rwandais, où qu'il soit né, reste toujours attaché à son pays, était très confidentiel par rapport aux objectifs fixés. Donc, ceci me pousse à dire, à ce stade, en tout cas, je semble croire que nous avons de sérieux problèmes, car déjà, aux environs de 1960, les Américains ont tenté à expérimenter la balkanisation. En 1997, ils ont mis sur pied des mécanismes pouvant nous conduire à la balkanisation avec l'arrivée, bien sûr, des militaires rwandais. Laurent Désiré Kabila s'est ressaisi en ne voulant plus obéir à ses parrains. Et ça, c'était trop tard. Alors, on a écarté de la course, mais ils tiennent toujours à la balkanisation. C'est pourquoi ils ont pu.
Voilà, là, carrément, la communication est en train de s'abîmer. Nous ne pouvons pas continuer avec vous, Égide. Égide, c'est impossible, hein, impossible. Est-ce que vous êtes encore là en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Ben, allez-y, allez-y, allez-y.
Ok. Et maintenant, ils ont une fois de plus remonté des stratégies avec le PRD, FCD, 52P, aujourd'hui M23. Hier, si vous observez bien avec moi, ce sont les Rwandais congolais.
Oui, mais Égide, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'accord que c'est quand même une crise régionale. Il faut des solutions aussi globales pour permettre à ce que la paix puisse se rétablir en RDC, raison pour laquelle il y a eu des sommets, il y a eu des conférences, et jusqu'à ce qu'on est arrivé, on a abouti à ce que nous avons appelé la résolution 2098. Aujourd'hui, la résolution 2098 est relative au déploiement de la force d'intervention neutre avec un mandat très robuste pour neutraliser les groupes armés actifs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout le monde est d'accord. Le Rwanda est impliqué, l'Ouganda même, la Tanzanie qui a même accepté de participer dans cette force d'intervention neutre. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jakaya Kikwete lance une autre solution. Il dit que la solution n'est pas toujours militaire, parce que je crois que ce sont là des propos qui sont tenus par plusieurs experts, plusieurs observateurs aussi de spécialistes spécialistes en droit international qui disent que voilà, mis à part la solution militaire, il y a également la solution politique et aussi la solution diplomatique. Je crois que petit à petit, si nous conjuguons des efforts dans ce sens-là, la solution tant recherchée sera trouvée.
Oui, oui. Ça, je suis d'avis avec tout cela. Bon, quant à moi, je voudrais proposer quelques solutions.
Oui, rapidement, parce qu'il y a Omar qui attend, et puis Franck qui est à Vienne.
Ok. Moi, je pense qu'il faut remanier la Constitution en défaveur de tous ces gens-là, des Congolais. Parce que, souvenez-vous avec ça, ce qu'avait dit Sarkozy, et qu'il a la RDC, et c'est...
Voilà, dommage, on aurait bien voulu vraiment avoir vos propositions, Égide, malheureusement, la ligne s'est détériorée, donc nous allons prendre Omar qui est à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Papou.
Vous avez la parole, Omar.
Merci, JR. Comme tout le monde, je salue cette initiative du président tanzanien, car personne ne peut ignorer qu'au regard du droit international, la négociation et le dialogue est un moyen pacifique de résolution des conflits. Mais à mon avis, JR, et je crois que beaucoup le partagent, ce n'est pas une solution suffisante ou encore efficace. Pourquoi je l'ai dit? Simplement, lorsque dans un conflit, on privilégie les dialogues, c'est qu'on veut qu'il y ait la paix. Lorsque l'objectif pour lequel les dialogues a été fait n'est pas atteint, il faudra passer au plan B, c'est-à-dire prendre à la force armée en cas de légitime défense. De deux, en ce moment nous parlons, il y a plus de millions et des millions d'êtres qui sont morts. Il faut des problèmes graves, des solutions aussi graves. En ce moment, je ne pense pas que le dialogue soit opportun. Vous avez été Vital Kamerhe la fois passée, il vous a cité les accords qu'on a signés. Nous avons toujours été des experts en dialogue et nous n'avons jamais respecté. J'ai suivi l'entretien dans ses 50 ans d'existence. Lisez les traités qui ratifient les pays africains. Vous vous rendez compte que nous sommes des experts en des résolutions, mais qui n'ont jamais été appliquées. Pourquoi nous établirons un dialogue qui aura des belles phrases et non application sur le terrain? Le problème est grave, il faut aussi une solution grave. Voilà pourquoi je propose, c'est mieux de tenir compte du dialogue, mais il ne faudra pas oublier l'aspect qui recourt à la force armée parce que le droit international le permet. Voilà pourquoi je voudrais interpeller l'ONU quant à la brigade qui va arriver et aussi de demander à l'État congolais de réformer son armée. Que le seul moyen de garantir la durabilité de la paix au Congo, ce n'est pas d'abord le dialogue. D'abord avoir une armée capable de protéger l'intégrité du territoire et les principes nationaux. Nous ne rejetons pas l'idée du dialogue. À l'heure où nous parlons, l'heure est grave.
Oui, Omar, parce que d'aucuns disent que la réforme de l'armée, c'est tout un processus. Ça commence aujourd'hui. On sait que ça commence aujourd'hui, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Alors, faudrait-il attendre qu'on arrive réellement à la fin de la réforme de l'armée pour commencer à négocier? Ou, en amont, il faut d'abord négocier et au même moment, donc, trouver des solutions d'une manière simultanée?
Mais dans la vie, il faudra faire la différence entre le principal et l'accessoire. Le principal maintenant, pour qu'il y ait fait au Congo, c'est réformer l'armée. Les dialogues, nous ne refusons pas. Mais à quoi ils nous serviraient-ils? Combien de dialogues n'avons pas eu?
Est-ce que vous Omar, est-ce que vous ne pensez pas comme les autres que c'est le rétablissement de la paix qui est prioritaire maintenant? C'est le principal?
Oui, c'est le principal.
Est-ce que cela doit forcément passer par une répression, par la capacité de l'armée de pouvoir bouter dehors les FDLR, les FDF Nalou? Eh ben, qu'est-ce qu'on fera alors de groupes armés qui sont actifs en RDC, qui sont congolais?
J'ai de mon état, je privilégie les dialogues parce que c'est un moyen pacifique de résolution des conflits.
Oui.
Est-ce qu'il faut le contextualiser par rapport à notre état? En commençant par l'accord de Moussaka jusqu'aujourd'hui, ce que les dialogues ont apporté. Au niveau même de la toute, si aujourd'hui la toute est critiquée, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de respecter les résolutions qu'elle prend au niveau de ces dialogues. Je suis d'accord pour qu'il y ait dialogue. Mais, le moment où ces dialogues n'apporteraient à rien.
Merci beaucoup.
Plan B, sinon que la brigade est en train de faire son travail, penser à la réforme de l'armée, de faire ce sera l'œuvre utile. Je partage pas vraiment l'idée qu'il y ait dialogue, parce qu'on en a eu beaucoup. Même le M20 est utile, du non-respect d'un dialogue.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé les Kinshasa. Nous traversons, on va plus loin, à plus de 8000 km, pour retrouver Franck, qui est à Vienne, en Autriche. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les intervenants. Bonjour à tout le monde.
Voilà, vous avez la parole, Franck.
Oui, je vous en prie, je suis en train de vous suivre depuis le début. Je crois que le président tanzanien a dit quelque chose qui peut avoir sa raison d'être. J'aimerais d'abord rappeler à mes compatriotes congolais que quand nous intervenons ici, c'est pas pour prononcer un jugement, mais nous intervenons aussi pour arriver à démanteler ce réseau qui a planifié la déstabilisation de notre pays. Et nous savons que la planification est conçue de l'intérieur et de l'extérieur, au niveau international, et aussi au niveau national, voire même au niveau...
Voilà, on a des petits soucis avec Franck. Je crois que on pourrait peut-être le relancer avant même la fin de cette émission. Jean-Marie et Kanya Bayonga. Jean-Marie, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Gér.
Voilà, vous avez la parole comme vos prédécesseurs.
Oui, exactement. Les propos de Monsieur Jacques Kikwete sont à saluer. C'était bien sûr une proposition que nous-mêmes avons saluée chez nous. Mais je crois que pour mettre fin au conflit ici dans notre région, il ne faut pas qu'on utilise des négociations. Il faut qu'on utilise un feu réel, qu'on ouvre le feu sur ces gens qui nous font souffrir. Coup de chapeau à Monsieur Jacques Kikwete, un homme qui a pitié de nous les Congolais. Au contraire, certains de ceux qui nous dirigent n'ont peut-être pas pitié de nous. Ici, je suis à Kanyabayonga. Où nous avons une population qui vivote, qui végète et qui fait couler les larmes depuis longtemps. Bon, je vais vous rappeler une chose, mon ami. Ici, à l'est de la RDC, vous avez appris qu'au niveau de Beni, il y a eu plus de 500 personnes enlevées. Et jusqu'à présent, on est sans nouvelles de ces gens, parmi lesquels trois prêtres. Et parmi ces trois prêtres, il y a un avec qui, d'ailleurs, j'ai grandi. Il est de Kaina. Donc, vous vous rendez compte que ce que font ces bandes armées ici à l'est de la RDC, c'est vraiment un chemin de croix que nous sommes en train de traverser. Donc, il faut qu'on ouvre le feu sur ces gens et on va donc mettre fin à ce calvaire que nous sommes en train de vivre ici à l'est de la RDC. Et puis, j'ajoute, mon ami, ce que nous vivons ici à l'est, c'est vraiment terrible. J'ai 34 ans aujourd'hui. Le président Mousséveni a pris le pouvoir en 1986. Bon, les FDLR et autres sont arrivés en RDC en 1994. Celui qui est né en 1994, aujourd'hui, il a combien d'années, mon ami? Il a 19 ans, donc il peut être déjà finaliste. Et donc, vous vous rendez compte que ce que nous sommes en train de subir ici, c'est vraiment un calvaire, un chemin de croix. Et s'il y a une voix comme celle de Jacques Kikwete qui dit, bon, il faut négociation. Mais moi, je ne suis pas pour les négociations, mais je suis prêt pour qu'il y ait le feu contre ces gens. Il nous faut souffrir. Maintenant, si vous constatez, vous arrivez à Kadiaba, vous allez voir que sur le visage des gens, c'est la misère la plus totale. La cité a visiblement reculé, n'est plus comme elle était avant.
On parlait passé. Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir appelé, hein, et surtout nous reconnaissons que c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission Parole aux auditeurs depuis Kanyabayonga. Charles, vous êtes à Likasi, bonjour.
Oui, bonjour M. Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Coffee.
Votre point de vue, Charles?
Oui, je crois que j'ai abondé comme mon prédécesseur de tout à l'heure, hein, parce que je considère que le président Jacques Kikwete a raison de proposer cette médiation de l'Ouganda avec les ADF Nalu et puis du Rwanda avec l'FDLR. Parce qu'il n'est pas possible de... La communauté internationale voudrait que... elle veut que le Congo, la RDC, puisse négocier avec le M23, mais elle n'a jamais demandé ce que le Rwanda puisse négocier avec le FDLR, alors que le FDLR existe depuis 1994, alors que le M23, c'est en 2009 que ça existe. Alors, il faudrait absolument que les deux pays, le Rwanda, puissent négocier avec le FDLR, la rébellion du FDLR, comme la RDC tentait de négocier avec le M23. La même chose pour l'Ouganda. Parce que, en fait, moi, ce que je comprends, au-delà des propos, de la proposition de M. Jacques Kikwete, c'est qu'il voudrait qu'on instaure la démocratie aussi au Rwanda et aux choses en Ouganda. Parce que Madeleine Albright, à l'époque de Mouzé, c'était la secrétaire générale d'État, puis le secrétaire d'État chargé des affaires africaines. Et elle avait dit, elle est venue au Congo, en passant par l'Ouganda, il dit que, bon, au Congo, il n'y a pas de démocratie. Mais Monsieur Museveni, il est au pouvoir depuis combien de temps? Monsieur Kagame, il est au pouvoir depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a la démocratie au Rwanda? Il y a de la démocratie en Ouganda? Il n'y a qu'au Congo, il n'y a pas de démocratie. Moi, je crois que cette communauté internationale, en fait, c'est quand même trop vague lorsqu'on parle de la communauté internationale. Donc, je ne sais pas qui compose cette communauté, quels sont les pays qui sont dans cette communauté internationale. Moi, je crois qu'il faut dire les choses clairement. Les États-Unis, c'est eux qui sont en tête de cette communauté, c'est eux qui soutiennent. Parce qu'il y a des autorités qui viennent, qui viennent dans la région des Grands Lacs. Quand elles passent par Kinshasa, elles vont terminer leur visite au Rwanda et à Ouganda. On ne sait pas ce qu'ils ont dit à Kinshasa et ce qu'ils vont dire au Rwanda. Mais il y a d'autres qui viennent, lorsqu'ils commencent par le Rwanda ou l'Ouganda, mais ils n'arrivent pas à Kinshasa. C'est quand même un peu fou.
C'est quand même curieux.
On ne peut pas être victime de ce comportement-là. Je crois que le président Jacques Kikwete a raison. Il faut qu'il y ait la démocratie en Ouganda et au Rwanda pour qu'il y ait la paix dans la région des Grands Lacs.
Merci beaucoup, Charles, d'avoir appelé Delicacy. Nous revenons à vous, Franck. Vous êtes à Vienne. Bonjour et bonjour, Franck.
Bonjour, désolé pour la communication.
Voilà, vous aviez déjà.
Je disais ceci. Ouais, qu'on intervient pour arriver aussi à démanteler ce réseau qui a planifié la déstabilisation de notre pays, de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, comme nous savons qu'il y a des gens qui trouvent des prétextes pour continuer à faire asseoir ce plan, il faut qu'il y ait aussi des contre-stratégies pour dénoncer. C'est dans ce...
Voilà, dommage.
Une des pistes de solutions, je ne dis pas que c'est tout, mais c'est l'une des pistes de solutions. Mais ça serait peut-être tragique si ça devait rester seulement comme une simple...
Voilà, dommage hein, pour Franck. Aujourd'hui, bon, c'est pas son jour de chance pour faire passer son point de vue. Nous allons peut-être nous retrouver avec vous, Franck, très prochainement dans un autre débat. Il est temps pour nous de prendre Albert qui était à Kananga. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité du jour. Par rapport à ce sujet, la déclaration du président tanzanien est une déclaration un peu compliquée parce que lui-même a des mesures à la commission envoyée pour mettre fin à l'est du pays. Bien sûr, la négociation est une bonne chose. Du côté de la RDC, quand même, il y a les avancées et la négociation. Mais de la part des Rwanda, Ouganda, nous ne pensons pas qu'ils engageront toujours des négociations avec leurs troupes. En tout cas, c'est là où nous sommes un peu...
Très
nous sommes un peu demandés qu'est-ce qui va se passer. Alors, parce que ce problème ici, M. Jean, c'est un problème congolais,
Voilà, dommage, on n'a plus Albert en ligne. Nous retenons que, au fait, c'est un problème congolais. Et aujourd'hui, le Rwanda doit engager aussi un dialogue franc avec le FDLR. Et l'Ouganda doit faire de même avec l'ADF Nalu. C'est le point de vue qui a été partagé par en tout cas, bon nombre d'intervenants de tout à l'heure. Et il y a Franck de Bukavu qui a abondé pratiquement dans le même sens. Sylvain qui a appelé de Kinshasa. Et Théodore Ambujimaï. On va prendre le tout dernier auditeur qui est à Kinshasa. Richard, docteur. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les Congolais et mes condoléances à tous ceux qui souffrent à l'Est à cause de toutes ces guerres qui se passent en RDC. Alors, voici ma modeste contribution. Je félicite le président tanzanien parce qu'il prône le dialogue. Et puis, dans vos propos par rapport aux propos tenu par cet homme d'État que je respecte, vous avez oublié le dialogue RDC-Rwanda. Et moi, je vais insister sur le dialogue RDC-Rwanda. Je crois que les autorités congolaises doivent ne plus nous prendre pour des moutons de panurge. C'est-à-dire, quand le premier mouton s'est jeté dans l'eau, il faut que tous les autres se jettent. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous, un sage... Monsieur Tshisekedi wa Mulumba avait dit quoi? Payez-leur leur argent, vous qui êtes au pouvoir après Mobutu, parce que vous avez été aidés par les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, etc. Pour que le peuple congolais ne souffre pas demain, cet homme avait été pris pour un fou. Et aujourd'hui, il a raison comme le président tanzanien, le Congo doit négocier avec le Rwanda, parce que le pouvoir Afdel a été placé ici
à Kinshasa par les Rwandais.
Oui, docteur Richard, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, je ne sais pas, plusieurs tripartites, Kabila, Kagame, Museveni, oui, ont eu lieu depuis le début de cette crise, et la dernière même en date, c'est celle du mois de mai, lors du cinquantenaire de l'Union africaine. Alors, selon certains observateurs, hein, toutes ces rencontres n'ont rien produit. C'est pourquoi il faut aller maintenant au niveau des négociations avec les concernés, donc, comme l'a proposé le président Jakaya Kikwete. C'est-à-dire le Rwanda doit négocier avec les FDLR et le Luganda avec les Nadef Nalu. Je crois que c'est à ce niveau-là que la solution pourrait être trouvée. Rapidement, en 30 secondes.
Les gens n'ont rien donné parce qu'on ment aux Congolais. On leur dit des mensonges. La rébellion ougandaise au Congo n'est qu'une fiction.
Rapidement,
pour embêter le Congo.
Merci.
La rébellion M23 n'est qu'une fiction. Pour embêter le Congo. Qu'est-ce que vous voulez encore comprendre, M. J.L.
Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé. Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Noël Mokondo, qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot Lamégi l'ont réalisé. Et J.R. Lungembo, vous la coordonnez et présentez sous la supervision de Nicole Ngaka. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'environnement. En marge de cette journée, parole aux auditeurs, vous accordera la parole donc demain pour commenter l'actualité relative à cette journée. Inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations. Vous pouvez également nous les poster sur notre page Facebook. Donc à bientôt et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.